Place Info.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Les journées du patrimoine commencent demain, elles se déroulent tout le week-end. Est-ce que vous allez visiter quelque chose en particulier ?
Oui, chaque année, évidemment. D'abord, on va lancer les Journées européennes du patrimoine avec le chef de l'État, puisqu'il va visiter l'un des monuments emblématiques de ma mission. Et ensuite, moi, demain, je signe avec un assureur, AXA, pour pas le nommer, eh bien, le mécénat qu'ils vont apporter à la mission dans l'Orne, en Normandie, au manoir de Courboyer. Et donc, je serai. Et puis après, je suis chez moi dans le Perche, évidemment, puisque j'ouvre au public le Collège royal et militaire de Thiron-Gardet.
Donc vous êtes le propriétaire. Vous avez
plutôt
dit
le dépositaire, je dirais.
Ça vous a manifestement ruiné, paraît-il.
Oui, alors vous savez, il faut bien choisir ses mots maintenant. Quand vous dites « je me suis ruiné pour mes vieilles pierres », ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous offrir un café. Ça veut dire simplement que tout y passe. Et que c'est une passion française d'ailleurs, le patrimoine, une passion dévorante. Et pour autant, je suis très fier de l'avoir fait, parce que c'est ce qui restera, je laisserai ça à la France, et je suis très heureux, je ne vais pas partir avec mes vieilles pierres, mais au moins, je les aurais laissées dans un meilleur état que l'état dans lequel je les ai trouvées.
Alors Stéphane Bern, 17 000 lieux ouverts au public ce week-end, 26 000 animations en tout, c'est un succès très important, comment vous l'expliquez ? Pourquoi les Français sont-ils si attachés à leur patrimoine ?
Parce que le patrimoine, c'est à la fois, c'est le lieu et ce qui nous lie, en quelque sorte. Le patrimoine nous rassemble, par-delà nos différences. Ce sont nos racines, notre identité. C'est aussi ce qui dope les territoires. Il faut jamais l'oublier. C'est 500 000 emplois. C'est une industrie qui n'est pas délocalisable, d'abord, et qui fonctionne très bien, parce que le patrimoine est dans les territoires. La moitié de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. On parle toujours, évidemment...
des communes qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Qui n'ont plus d'industrie, même. Je visite en permanence tous les villages de France. Enfin, pas tous, mais je me rends dans toutes les régions, et c'est ce que me disent les gens, ils n'ont plus d'usines, plus rien, les services publics s'éloignent. Et en revanche, ce qui permet de nourrir les hommes, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les pierres et les hommes, eh bien c'est souvent le patrimoine, parce que ça génère une nouvelle économie grâce au tourisme patrimonial. N'oubliez pas qu'on est le premier pays visité au monde avec 90 millions de touristes. Oui, les Français aiment leur patrimoine. Un sondage pour BVA a montré que 96% des Français demandent à ce qu'on fasse davantage pour le préserver.
Est-ce que c'est pas aussi une forme de nostalgie ou de passéisme ?
Je crois pas, parce que quand je vous dis patrimoine, vous pensez, je sais que dans votre tête, vous pensez aux églises et aux châteaux. Mais le patrimoine, c'est aussi le patrimoine du XXe siècle. On restaure à Bar-le-Duc le théâtre des Bleus de Bar, un théâtre du XXe siècle. C'est aussi les maisons d'illustres. On se rendra avec le chef de l'État dans la maison atelier de Rosa Bonheur, un peintre très connu dans le monde. L'année dernière, c'était la Villa Viardot. Voilà un patrimoine qui n'est pas... Il y a du patrimoine du XXe siècle, il y a aussi du patrimoine vernaculaire, ce petit patrimoine méprisé, pas forcément protégé, et qui fait la joliesse de nos villages et de nos régions.
Vous évoquiez le besoin de moyens pour restaurer le patrimoine. Mmh. Stéphane Bern, justement, vous êtes l'auteur d'un livre qui est un manifeste, Sauvons notre patrimoine, paru chez Plon, dans lequel vous écrivez que sur 44 000 monuments recensés dans tout le pays, 9 000 sont dégradés, ça fait à peu près 20%, plus de 3000 sont en réel péril. Ça signifie qu'il y a aujourd'hui une vraie menace sur l'état de notre patrimoine en France ?
Oui, il y a une menace sur l'état de notre patrimoine. Et ce que j'essaye de montrer aussi dans ce livre, c'est qu'on manifeste publiquement la volonté de le sauver, et en même temps, les lois vont souvent à l'encontre de cela. Par ce millefeuille administratif, cette ingénierie aussi qui manque aux communes. Vous vous rendez compte, avec les com-com, les communautés de communes, on a multiplié les strates administratives. Et du coup, on ne fait plus rien. Quand une com-com a sept églises à sauver, moi, les gens m'appellent en me disant « je vais en sacrifier une parce que là, on n'y arrive pas ». Et il y a des désirs contradictoires. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans les réunions, les gens disent « on veut d'abord la voirie, puis peut-être d'abord les écoles. » Et puis l'église, elle passe en dernier, alors que si vous voulez détruire l'église, tout de suite, les gens m'écrivent.
On peut comprendre aussi, au vu du manque de moyens que vous évoquiez, de ces petites communes, de ces villages, que l'école, par exemple, ou des services liés à la vie quotidienne des habitants passe avant la restauration d'une église.
Mais bien sûr, je comprends tout à fait. C'est la raison pour laquelle la mission a été mise en place. Ce que les maires n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire, il y a tellement de demandes. Un maire est seul avec une secrétaire de mairie. Vous imaginez toute la paperasse qu'il faut remplir. Donc, le site www.missionberne.fr, c'est un moyen simple de déclarer un monument qui est en péril. Là, j'en ai trouvé quand même 3200. Donc, on n'est pas loin. On est même au-delà du chiffre que j'annonce sur les monuments vraiment en péril. péril. Et ensuite, eh bien, nous, avec la Fondation du patrimoine et avec les DRAC, parce que les DRAC font un travail formidable, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, donc c'est le bras armé, si je puis dire, ou pas armé, mais culturellement en tout cas, du ministère de la Culture, on travaille très bien pour essayer de faire remonter les informations. Mais c'est vrai que y a tant à faire. Et alors, quoi sauver ? Qui va prendre la liberté de dire « Ah mais non, cette église a moins d'intérêt, non, on va la détruire. » Ou ce pont, on peut s'en passer. Ben, je crois qu'on doit respecter toutes les strates de notre histoire, y compris le patrimoine archéologique ancien, y compris le patrimoine du XXe siècle. Et puis c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, c'est ce qui fait la richesse de notre pays, et que les gens ont envie de le visiter.
Et pour trouver des moyens, il y a également ce loto du patrimoine. C'est une opération qui est un succès, selon vous ?
Oui, c'est un succès, parce que déjà, d'abord, à ce jour, on a sauvé exactement 133 monuments qui sont... on peut voir les travaux, on peut voir les échafaudages.
C'est très concret, quoi.
C'est très concret. Voilà ce qu'on a fait avec l'argent des Français. En plus, c'est pas un impôt patrimoine.
Quelle somme vous avez récolté, justement ?
Écoutez, 22 millions. J'ai 22 millions du loto de l'année dernière, plus le mécénat, plus les taxes compensées par l'État. Vous savez que je me suis battu pour ces taxes.
Et vous avez gagné là-dessus, l'État a lâché.
J'ai gagné une première manche, mais c'est, j'appelle pas ça une victoire quand on compense des taxes qui sont prises par l'État. Moi, j'aimerais l'abrogation de ces taxes.
Au total, la question se pose à nouveau.
Mais je la reposerai évidemment.
Vous serez vigilant.
Absolument. Moi, vous savez, je suis libre. 50 millions ont été récoltés grâce, notamment à la mobilisation des Français, et on peut voir sur le terrain tous ces monuments qui sont restaurés. Il y a une deuxième vague. Il y a eu le premier tirage, maintenant au mois de juillet. Là, maintenant, il y a les tickets de grattage qui sont en vente. J'espère qu'on va pouvoir, grâce à cette manne, c'est pas un impôt patrimoine. C'est un jeu ludique, participatif. C'est la part de l'État. Les gens gagnent. Hein. Un ticket sur trois est gagnant. C'est la part de l'État qui est reversée au patrimoine.
Stéphane Bern, on va parler dans quelques instants des journées du patrimoine qui risquent d'être un peu perturbées à Paris. Ça sera juste après l'info à 8h40. Lauriane Delanoë.
La ministre de la Santé se dit horrifiée. Un essai clinique non autorisé, arrêté par l'agence du médicament. Au moins 350 personnes ont testé ces patchs censés traiter les maladies comme Alzheimer ou Parkinson. La directrice de France Alzheimer encourage les participants à en parler avec leur médecin traitant. Ne restez pas confus en pensant avoir fait une erreur, leur dit-elle sur France Info. Les jeunes de toute la planète appelés à se mobiliser contre le réchauffement climatique. Des manifestations de lycéens ou étudiants dès ce matin en Thaïlande ou en Corée du Sud, à Paris et Strasbourg cet après-midi. Le ministre iranien des Affaires étrangères décolle pour New York, aujourd'hui en pleine tension avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite, autour des attaques sur des sites pétroliers saoudiens. Mohamed Javad Zarif doit assister à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine. Japon, Russie, ce n'est pas forcément l'affiche la plus attendue en rugby, mais c'est ce midi le premier match de la Coupe du Monde. Le 15 de France attaquera demain face à l'Argentine.
France Info. Et tout est plus clair.
Stéphane Bern, invité ce matin de France Info, Monsieur Patrimoine du gouvernement. Ça,
non,
ce
pas du gouvernement. J'ai pas de rôle, pardon, de vous de
charger de mission.
Par le chef de l'État.
Par le président.
Ce qui
Emmanuel
me rend
Macron.
Assez libre. Et c'est une mission bénévole. J'aime bien le rappeler. J'ai pas de voiture, pas de chauffeur, j'ai pas de secrétaire payé par l'État. Je fais ça bénévolement. Donc au fond, non, mais ça me permet d'être libre et de dire ce que je pense.
En tout cas, les journées du patrimoine ce week-end vont être un peu perturbées à Paris, notamment rassemblement des gilets jaunes, manifestations contre la réforme des retraites, mobilisation pour le climat. Tout ça fait que les forces de l'ordre seront très occupées, comme nous l'expliquait à votre place il y a quelques jours Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur.
Il y a un appel national à manifester des gilets jaunes sur Paris, majoritairement à Paris, sans doute dans d'autres endroits en province. Effectivement, samedi, nous avons les journées européennes du patrimoine, avec un certain nombre de monuments qui seront ouverts. Donc les journées, bien évidemment, ont lieu. Il y aura bien un dispositif de sécurité, comme chaque année, qui encadrera les journées européennes du patrimoine.
Et comme les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout à la fois, certains bâtiments seront fermés à Paris, comme le ministère de l'Agriculture, de l'Éducation nationale ou des loges maçonniques. Est-ce que vous déplorez cet état de fait ?
Mais c'est surtout que j'aimerais faire passer un message, c'est que, au fond, je comprends en grande partie le mouvement des Gilets jaunes, notamment cette colère qui s'est exprimée. Pourquoi ? Parce que moi j'habite une partie de l'année à la campagne, et c'est vrai que vous avez le sentiment que l'État vous a abandonné. Vous vous sentez abandonné, et la face visible de cela, c'est quand le monument tombe en ruine. Vous dites, ah ben voilà, Paris nous a oublié, la capitale ou l'État.
Au fond de vous, Stéphane Maire, vous êtes solidaire des Gilets jaunes.
Solidaire de ce point de vue-là, je comprends, disons, la colère qui peut s'exprimer quand on se sent abandonné, qu'il n'y a plus de services publics, etc. Donc il faut recréer du lien avec les territoires. Et je sais qu'un certain nombre de personnes, je pense au ministre Sébastien Lecornu, qui fait tout un travail sur le terrain formidable, je dois dire, et qui a fait avancer les lois justement sur l'aide aux collectivités territoriales et locales pour le patrimoine. Eh bien, je pense que le patrimoine est la richesse de nos villages. C'est l'industrie, encore une fois, qui est florissante, qui rapporte, qui va nourrir les hommes. Et donc, arrêtons d'opposer les pierres et les hommes. Et justement, pour ces journées du patrimoine, je lance cet appel solennel de dire, écoutez, ce patrimoine, c'est notre chance. C'est un trésor pour la France. C'est ce qui peut faire redécoller nos territoires ruraux. Et à condition de réussir ensemble à le restaurer, de faire en sorte qu'il y a... Moi, je vois dans mon collège, et immédiatement, il y a des gens qui y travaillent. Il y a une auberge qui a ouvert. Ça crée de l'économie. Il y a des gens qui viennent tous les
il
week-ends.
Il faut le préserver. Il ne faut pas le saccager. On a tous en tête, évidemment, les images de l'Arc de Triomphe.
Bien sûr. Et puis, voilà, il peut y avoir... ce ne sont pas les Gilets jaunes qui casse tout, vous le savez
vous
très bien.
Vous l'avez vécu comment cet événement, cet Arc de Triomphe, saccagé en marge d'une manifestation?
J'avais l'impression, pardon, mais c'était en prélude à ce que j'ai, mes larmes de Notre-Dame de Paris. Je ne peux pas supporter ça, parce que c'est un symbole très fort. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Je vais vous dire, c'est comme si on se privait. Et puis, il faut dire les choses aux gens, ça a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros pour remettre en état l'Arc de Triomphe. Qui paye? Nous? C'est chaque fois, pardon, mais il faut le dire, c'est-à-dire que c'est autant, c'est se priver soi-même de moyens pour faire autre chose.
Il y a un grand projet qui est en cours, évidemment, de reconstruction, de restauration, c'est celui de la cathédrale Notre-Dame. Vous évoquiez les larmes que vous avez eues, l'émotion que vous avez eue ce soir-là. 5 mois après, cette émotion, elle est intacte, 5 mois après l'incendie qui a ravagé le bâtiment.
Écoutez, oui, je vais vous faire un aveu, j'ai eu un moment d'émotion très fort hier en allant voir le tapis de Notre-Dame au Mobilier National.
Qui sera visible ce week-end pour les Journées du Patrimoine.
C'est une émotion assez forte de voir que, d'abord, je rends hommage aux sapeurs-pompiers, les pompiers de Général Galet, avec ses hommes, ont fait un travail incroyable pour sauver ce qui pouvait l'être. Et à part les tableaux qui ont été un peu... Parce que c'est l'eau, il y a le feu, mais il y a l'eau ensuite
oui,
qui
le tapis
peut
a
dégrader.
Été dégradé à
il
cause
a
de
été
l'eau.
Dégradé, mais ensuite on a... Il est magnifique. Alors vraiment, j'ai fait les photos, je peux vous dire, le tapis est absolument magnifique. Et donc, c'est une émotion très forte. Il faut restaurer Notre-Dame de Paris. Il faut d'abord sécuriser l'endroit. Ça va prendre encore quelques mois. Et puis ensuite, je fais confiance à la fois au général Georges Lin et puis aux autorités du ministère de la
Défense.
Il faut du temps, dites-vous. C'est vrai
il faut du temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps que vous ne l'imaginez.
Beaucoup plus de temps que 5 ans, comme l'avait l'objectif affiché par le président de la République.
C'est raisonnable, 5 ans. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable parce que je vais vous dire, on a numérisé la charpente. Il suffit d'appuyer sur le bouton et puis, en quelque sorte, et en 3 ans, on l'a reconstruit.
Pour la charpente. Dans trois ans.
Les professionnels me disent qu'en 3 ans, uniquement. On peut refaire la charpente.
En bois.
C'est ce qui est le plus simple. Mais vous connaissez mon point de vue et je le développe dans mon livre, c'est de dire qu'il faut restaurer Notre-Dame
à l'identique.
Pourquoi ? Pas parce que par nostalgie, parce qu'elle a été classée. On doit... Vous êtes un petit propriétaire, vous êtes une collectivité territoriale dans un village. Vous avez les autorités, la DRAC, qui vient vous dire « Ah non, monsieur, ça, vous n'avez pas le droit de faire ce geste architectural contemporain parce que c'est classé comme ça. »
Elle a été classée, mais elle a évolué au fil du temps,
mais
la cathédrale Notre-Dame.
Elle a peut-être évolué, mais pas depuis le moment où elle a été classée. On doit la restaurer telle qu'elle est classée. Sinon, quel message? Si l'État ne respecte pas sa loi, comment voulez-vous la faire respecter pour tous les propriétaires et pour toutes les collectivités locales et territoriales?
Et justement, il y a une loi d'exception qui est...
Qui était par chance vidée de son sens.
Qui était vidée de son sens.
Je n'aime pas les lois d'exception.
Vous auriez aimé que figure dans cette loi, comme le demandaient d'ailleurs des députés de la droite, le fait que la cathédrale doit être reconstruite à l'identique, c'est-à-dire telle qu'elle était le matin de l'incendie.
Oui, mais de toute façon, c'est ce qui va se passer. Vous savez, dans le moment d'émotion, on peut s'enflammer, si je puis dire. Ça m'arrive aussi, mais je crois qu'après, la raison l'emporte. Il faut restaurer Notre-Dame telle qu'elle a été vue pour la dernière fois.
C'est-à-dire et vous en avez parlé avec Emmanuel Macron à ce sujet. Ce que vous dites, c'est ce qui va être fait. Donc,
je plaide en tout cas quand il m'interroge, je plaide pour une reconstruction à l'identique.
Et il vous entend.
Il écoute en tout cas. Et je crois qu'il a. Je pense qu'elle sera, elle sera restaurée à l'identique. Il y aura peut-être un acte architectural contemporain sur le parvis de Notre-Dame.
Ah, de quel ordre ?
Je ne sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de projets qui ont été proposés.
Ce serait un moyen de sauver la face, en quelque sorte.
Je ne sais pas, mais
on n'aurait pas une flèche contemporaine, mais
oui,
quand même.
Oui, alors tout sauf une flèche contemporaine. Et puis arrêtons de prendre Viollet-le-Duc pour un personnage qui s'est autorisé à faire des choses modernes. Les matériaux étaient peut-être modernes, mais il a parachevé l'œuvre des bâtisseurs du Moyen Âge. C'est le meilleur spécialiste du Moyen Âge au 19e.
À l'occasion de cette catastrophe, on a vu un afflux de promesses de dons de l'ordre de 850 millions d'euros à peu près au total, enfin on frôle le milliard. Cinq mois après, à peine 10% ont été d'ores et déjà versés, c'est très lent.
C'est pas que c'est lent, c'est qu'en fait il y a des conventions qui ont été signées entre tous ces donateurs et puis
ces promesses seront tenues.
Bien sûr, elles seront tenues. Mais si vous voulez, soyons honnêtes, vous savez où va l'argent, c'est-à-dire les fondations récoltent l'argent, puis ensuite ça va être versé au trésor public de telle sorte que le trésor public, puisque les cathédrales appartiennent à l'État. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire une avance au trésor public ? Non, vous préférez garder un peu l'argent et puis le faire vous-même fructifier. Et ensuite, au moment où vous voulez dépenser l'argent pour restaurer Notre-Dame, vous le verserez au trésor public.
On a vu des grands groupes rivaliser, annoncer des sommes, Pinault, Arnault, L'Oréal,
etc. Et qui n'a pas demandé
etc.
de défiscalisation. Monsieur Pinault a refusé la défiscalisation.
Certes, mais certains Français ont pu s'étonner que ces grands groupes se mobilisent pour sauver des vieilles pierres et le fassent moins quand il s'agit ou ne le fassent pas quand il s'agit de lutter, par exemple, contre la grande pauvreté.
Mais écoutez,
vous comprenez que ça puisse choquer ou en tout cas surprendre.
Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Chacun peut mettre sa générosité où il l'entend. Il se trouve qu'on peut avoir une sensibilité. Encore une fois, je l'explique chaque fois, arrêtez d'opposer les vieilles pierres à la pauvreté. Les vieilles pierres, comme vous dites, eh bien, permettent à 500 000 personnes de vivre, à des familles, à tous ces artisans qui vont travailler pour restaurer, tous ces métiers d'art, ce conservatoire du génie français, tous ces couvreurs, ces charpentiers, ce sont des familles modestes la plupart du temps, qui sont des gens passionnés, que je rencontre toute l'année. Eh bien, on va leur donner du travail. Donc, ça, les pierres nourrissent les hommes. Arrêtons d'opposer les pierres aux hommes, c'est insupportable de dire. Et merci à la générosité. Est-ce que vous savez que Notre-Dame de Paris a suscité une générosité jamais atteinte de petits donateurs ? Il y a eu 300 000 personnes qui ont envoyé 10 euros. J'étais d'ailleurs assez confus parce que certaines personnes m'ont envoyé à moi l'argent en disant on vous fait plus confiance qu'à l'État. Donc ensuite, moi j'ai eu une.
Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous l'avez.
J'ai dit non, je vous rends l'argent, vous devez l'envoyer à la Fondation Notre-Dame ou à la Fondation du Patrimoine, etc. En leur expliquant. Donc moi ça me coûte des timbres. C'est pas grave, mais je suis ravi de le faire. Mais si vous voulez, c'est vous dire qu'il faut remercions les gens de leur générosité. Arrêtons de dire aux gens où ils doivent mettre leur argent.
Notre-Dame sera reconstruite, en tout cas en 5 ans. C'est le vœu que vous faites ce matin, Stéphane Bern.
Oui.
Vous restez avec nous.
Oui, je ne bouge pas.
On vient dans un instant, 8h51. Toute l'info, c'est avec Lauriane Delanoë.
Après Aigle Azur, voici XL Airways qui demande son placement en redressement judiciaire. La compagnie aérienne française emploie 570 salariés à Roissy. Les ventes de billets suspendues et des vols pourraient être annulés après le week-end, dès lundi. Des traitements dans une abbaye et non dans un hôpital et surtout sans aucune autorisation. Un essai clinique interrompu, essai de patch, soi-disant contre Alzheimer ou Parkinson. 350 participants au moins. Il y aura des poursuites, prévient la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le second jour du procès de Jean-Luc Mélenchon et 5 autres membres de la France Insoumise. Ouverture de l'audience dans moins d'une heure. Les réquisitions attendues en fin d'après-midi. Sur France Info, le député insoumis Hugo Bernalici dénonce les méthodes et le calendrier politique selon lui du parquet. Le procureur demandait un renvoi juste avant les élections municipales. Quelle aubaine lance l'élu ? L'hommage de Claude Lelouch au comédien Charles Gérard, mort hier à 96 ans. C'était le copain idéal à l'écran comme dans la vie, résume le réalisateur sur France Info. Charles Gérard, habitué des seconds rôles comme dans Flic ou Voyou.
France Info. Et tout est plus clair.
Stéphane Bern, invité ce matin de France Info, on en parlait tout à l'heure, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, votre voix en tout cas est parfois écoutée par le président, et vous êtes aussi engagé dans certains combats. En 2013, par exemple, vous aviez signé un manifeste de soutien au mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est la loi bioéthique qui est au Parlement, une loi qui prévoit l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Est-ce que c'est aussi quelque chose dont vous voulez faire un combat ?
Non, en tout cas, c'est pas mon combat personnel, si vous voulez. Moi, je m'étonne toujours que dans une société qui, autrefois, on se battait pour toujours plus de droits pour les autres. Aujourd'hui, c'est pour les gens descendent parfois dans la rue de façon tout à fait gênante. Je l'ai vu pour la manif pour tous, pour réclamer moins de droits. Tant qu'on m'oblige pas à me marier, tant qu'on m'oblige pas à faire une PMA, ça va. Moi, je suis pour que les autres puissent. Je comprends que des femmes aient envie d'avoir un enfant et plutôt que d'aller d'avoir une PMA à l'étranger, c'est bien de légiférer pour que ça soit encadré en France.
Les opposants, en tout cas, parlent de ce qui suivra, d'après eux, à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Écoutez ce qu'en disait hier matin, à votre place, Éric Woerth, le député Les Républicains.
Il y a un effet engrenage. Le mariage, on est passé à la PMA. Et on passera évidemment à la gestation pour autrui. Évidemment. On passe à un moment donné à une idée très ouverte, à une idée commerciale. Tout ça sera commercialisé. Parce que c'est un engrenage.
Est-ce que vous comprenez cette crainte que décrit Éric Woerth?
Je crois qu'il est pourtant libéral. J'ai du mal. Je crois que la GPA n'est pas programmée en France. Je crois que
elle ne figure pas dans le projet de loi bioéthique.
Emmanuel Macron a dit qu'il y était hostile.
Voilà, le président a dit qu'il y était hostile. Enfin, moi, j'essaye d'influencer. En tout cas, je me mêle pas de ce débat. Je comprends. En tout cas, j'ai rencontré des familles recomposées, des mères homoparentales. Je trouve que les enfants sont très bien élevés. Ce qui est important, c'est de penser d'abord aux enfants et à leur bien-être.
Mais c'est ce que disent aussi les opposants à l'ouverture de la PMA pour toutes.
Je crois qu'on ferait bien de se préoccuper des enfants et de les éduquer aussi de telle manière qu'ils respectent les femmes. Parce que de voir, voilà un combat que j'essaye de mener, c'est contre les violences qui sont faites aux femmes. Je suis scandalisé de voir les propos sexistes qui se répandent. Je partage le combat de Marlène Schiappa. Je trouve que c'est scandaleux. Donc éduquons mieux nos enfants, les enfants, d'une manière générale, à respecter les mères et les femmes et leurs filles. Future épouse aussi.
Vous évoquiez tout à l'heure le souvenir des manifestations hostiles au mariage pour tous il y a quelques années. Il y a une manifestation des anti-PMA qui est programmée début octobre. Vous redoutez l'effet de ces manifestations justement?
Oui, et puis j'ai détesté de voir des gens crier sale pédé en poussant des caddies, en poussant des poussettes d'enfants. Je trouve que la manipulation est terrible. En tout cas, tous ceux qui sont associés, on voit cette manifestation du Trocadéro aussi, on voit qui était dedans. Des gens qui vous donnent des leçons et qui pourtant ne sont pas tout blancs. Non, j'ai été scandalisé. Moi, j'ai plus d'admiration pour la reine d'Angleterre, si vous voulez, qui a signé le mariage pour tous en Angleterre et à qui Elton John a demandé quel titre elle allait donner à son mari. Et elle a dit, vous avez tout à fait raison, vous seriez avec une épouse, elle aurait le titre de Lady. Donc, elle a donné au mari d'Elton John un titre. Je trouve ça très bien. Elle est civilisée, la reine d'Angleterre.
En matière ce que ne sont pas donc les participants.
Écoutez, oui, franchement, en France, on est le seul pays où ça pose un problème. Mais la société avance plus vite, vous savez. J'ai envie de dire à nos hommes politiques, mais arrêtez d'être hors sol de temps en temps. Allez, je me permets de cette incursion de trouver un peu dommage dans le non-cumul des mandats. C'est qu'au fond, j'ai l'impression que nos élus qui avant les députés qui ne sont plus maires d'une petite commune, eh bien, ne voient plus la réalité sur le terrain. Sur le terrain, les gens trouvent ça tout à fait normal.
Y compris dans les villages.
Ah, dans les villages,
vous êtes, oui.
En matière d'homophobie, il y a un autre endroit où il y a des manifestations homophobes ces dernières semaines. Ce sont les stades de football. Il y a eu des matchs de football qui ont été interrompus à la suite de chants homophobes ou de banderoles homophobes. Notamment Marlène Schiappa, Roxana Maracineanu ont demandé l'interruption de ces matchs. C'est pas l'avis du patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Il était notre invité ici même il y a quelques jours. Écoutons-le.
Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes. Ça, c'est clair.
Donc on peut dire sale juif, mais on peut pas dire sale pédé. En gros, c'est ce qu'il dit.
C'est l'inverse. Il dit qu'il veut arrêter les matchs pour des cris racistes.
On n'est pas obligé de dire les insultes à l'antenne de France Info, mais effectivement, il fait une différence. Il fait en tout cas une forme de hiérarchisation.
C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation de l'insulte. Ça paraît tellement d'un autre temps. Franchement, la loi doit s'appliquer partout et pour tous. C'est interdit de tenir des propos racistes et heureusement. C'est interdit de tenir des propos antisémites et tant mieux. C'est interdit de tenir des propos homophobes et tant mieux, mais ça doit s'appliquer partout.
Au stade comme ailleurs.
Ben oui, parce que les gens regardent les matchs. Et ça, voilà, on est là de s'interroger, on s'interroge sur l'avenir de notre pays. Bah, l'éducation commence aussi parce qu'on montre à la télévision.
Stéphane Bern, merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de France Info.
Vous me poussez dans mes retranchements.
Effectivement, animateur, journaliste et homme donc engagé. On vous a peut-être découvert sur ce visage ce matin sur France Info. Merci beaucoup,
merci
belle journée à vous.
Merci.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.